Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Il y a eu des dysfonctionnements au sein de la préfecture de police de Paris pour le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les fautes ayant conduit à la mort de 4 fonctionnaires devront être corrigées. Il confirme que le tueur Michael Harpon n'avait fait l'objet d'aucun signalement, comme le montre une note du renseignement que France Inter a pu consulter. Quant à démissionner, comme le lui demande la droite et l'extrême droite, la question, dit-il, ne se pose pas. Plus de 74 000 manifestants contre la PMA pour toutes. Les opposants au projet de loi bioéthique ont réussi leur mobilisation ce dimanche à Paris, sans atteindre les chiffres d'il y a 6 ans contre le mariage pour tous. Les politiques, sauf exception, étaient cette fois aux abonnés absents. Dans ce journal également, les Tunisiens qui boudent les urnes aux législatives. Le pape François qui prend la défense de l'Amazonie. En sport, un maigre, très maigre bilan pour les Français aux mondiaux d'athlétisme qui se concluent ce soir à Doha. La pâle copie du 15 de France ce matin face au Tonga, 23-21. Les Bleus se sont laborieusement qualifiés pour les quarts de finale. Le derby Saint-Étienne-Lyon en clôture de la 9e journée de Ligue 1 tout à l'heure. Le journal des sports, c'est avec Fabrice Rigobert dans un instant. Et puis la météo au ciel dégagé sur le bassin méditerranéen demain, un ciel d'automne partout ailleurs.
France Inter.
Bien sûr qu'il y a eu des failles puisque 3 hommes et une femme sont morts. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sous le feu des critiques de la droite et de l'extrême droite, a reconnu sur TF1 des dysfonctionnements au sein de la préfecture de police de Paris, ajoutant « s'il y a eu des fautes, il faudra les corriger, s'il y a eu des erreurs, il faudra les sanctionner ». Pour le reste, le ministre confirme ce qu'il avait dit juste après le quadruple assassinat de jeudi dernier, que le comportement du tueur Michael Harpon n'avait fait l'objet d'aucun signalement administratif, qu'au contraire, il avait de bonnes notes et que d'ailleurs son habilitation secret défense avait toujours été renouvelée. Emmanuel Leclerc, vous avez pu consulter le rapport remis au ministre hier par la patronne du renseignement de la préfecture de police.
Oui, Françoise Bilancini confirme que rien n'apparaissait effectivement dans le dossier administratif de Michael Harpon. Elle a découvert entre vendredi et hier, en interrogeant plusieurs policiers de son service, ce qui s'était dit en juillet 2015 après les propos de Michael Harpon justifiant l'attaque de Charlie Hebdo. Des discussions avec un major et un commandant ont bien eu lieu, mais que cela n'a jamais fait l'objet d'une note écrite. Pas de signalement donc. Le service de maintenance informatique, qui est très soudé, dit-elle sur un mode presque familial, a toujours fait bloc pour dire qu'il n'y avait plus de soucis avec leurs collègues, dont le handicap, sa surdité s'était aggravé avec l'âge. La patronne du renseignement parisien souligne qu'au début de l'année, en février, Michael Harpon avait pour la première fois fait part de préoccupations personnelles en termes d'évolution de carrière lié à son handicap, justement, au sentiment de ne pas progresser. Ses supérieurs avaient relevé qu'il nourrissait quelques frustrations et le service RH l'avait prise en compte. Des formations avec un traducteur en langage des signes avaient été acceptées, mais pas toutes celles qu'il souhaitait, poursuit Françoise Bilancini. Elle affirme que ce n'était pas pour une question de moyens financiers, mais de place disponible dans les formations en question.
Ce qui pourrait peut-être expliquer son passage à l'acte.
C'est ce en tout cas ce que les enquêteurs essayent de déterminer. Est-ce que des personnes de l'entourage de Michael Harpon, proches des milieux salafistes islamistes, comme l'a indiqué hier le procureur antiterroriste, n'auraient pas profité des frustrations de Michael Harpon pour l'instrumentaliser? La garde à vue de son épouse, qui a été prolongée, pourra peut-être permettre de comprendre quand et pourquoi Michael Harpon a décidé de s'attaquer à ses collègues.
Une note de la directrice du renseignement à lire, bien sûr, sur franceinter.fr, en rappelant, Emmanuel, que l'épouse du tueur est toujours en garde à vue ce soir. Pour le reste, la question de ma démission ne se pose pas, a dit aussi Christophe Castaner ce midi, le ministre de l'Intérieur auquel le Premier ministre Édouard Philippe a renouvelé sa confiance, il l'a dit au JDD, en expliquant par ailleurs avoir lancé 2 missions, l'une pour comprendre justement ce qui est arrivé, l'autre pour améliorer les procédures de détection d'éventuelle radicalisation au sein des services. Sur tous ces points, Christophe Castaner devra s'expliquer mardi devant la délégation parlementaire au renseignement. Et puis il sera demain matin l'invité de France Inter. Ils espéraient une forte mobilisation, ils ont eu raison. Les opposants à la PMA pour toutes n'ont certes pas complètement réussi leur démonstration de force aujourd'hui à Paris. Rien à voir en tout cas avec les rassemblements de 2012 sur le mariage pour tous. Mais la société Occurrence, mandatée par des médias dont France Inter, a compté 74 500 manifestants. Une centaine de cars et 2 TGV avaient été affrétés par la vingtaine d'associations qui appelaient à défiler contre le projet de loi bioéthique du gouvernement et sa mesure phare sur la PMA. Porte ouverte, selon ces associations, sur la GPA. Tout enfant doit avoir un père, ont notamment scandé les manifestants, dont Bérangère, mère de 5 enfants, qui a dit ses motivations à Julie Pietri.
Pour moi, un enfant, c'est de manière très anthropologique un homme, une femme, et c'est un don. Voilà, c'est quelque chose que l'on reçoit. On avait marché également au moment de la manif pour tous. On nous avait dit à l'époque que la PMA n'était pas d'actualité. On savait qu'on était là pour ça. Et du coup, aujourd'hui, on revient avec un peu le cœur lourd parce que on a l'impression que les choses se font sans nous. Donc non, en fait, c'est juste le début, c'est une amorce. Derrière, il y aura la GPA. C'est le début d'une fabrique et c'est le début d'une commercialisation à tout va. Je suis pas sûre que ça serve. C'est plus pour mes enfants que je le fais aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, mes enfants ont vu qu'on pouvait se déplacer et se mobiliser quand on n'était pas d'accord avec ce que les gens décidaient pour nous. Voilà, sans nous consulter et sans discuter avec nous.
Voilà, contrairement aux manifestations de 2012 contre le mariage pour tous, peu de politiques se sont montrés parmi les manifestants, sinon quelques figures des Républicains comme François-Xavier Bellamy ou du Rassemblement National comme Gilbert Collard. Ce sera aussi l'un des débats dans les semaines à venir et dès demain à l'Assemblée, un débat voulu par Emmanuel Macron sur l'immigration, au risque d'ailleurs de diviser la majorité. Face à la ligne dure du Rassemblement National, le président veut être fidèle à sa formule du « en même temps » entre humanisme et fermeté. En attendant, ce qui est sûr pour les associations, c'est que les conditions d'accueil des réfugiés se sont dégradées ces dernières années, compte tenu notamment d'un sous-dimensionnement chronique des hébergements. De ce point de vue, il y a déjà beaucoup à faire. L'occasion de rappeler là aussi le rôle actif de nombreux citoyens qui accueillent des réfugiés à domicile pour quelques mois, comme le propose l'association Singa. C'est un reportage de Laurent Kramer.
Avec l'association Singa, Emmanuel et sa fille ont déjà accueilli à la maison 3 jeunes réfugiés plusieurs mois.
Non, au début, on se dit, est-ce que je suis bien sûre de vouloir faire ça ? Accueillir quelqu'un chez soi, ça va me demander du boulot. Puis je suis pas sûre de qui je vais accueillir. Et puis... C'est quasiment dès qu'on voit la personne que cette appréhension, elle s'en va.
Réfugiée somalienne, Sarah est arrivée la semaine dernière chez Emmanuel, désormais en immersion culturelle dans une famille française.
Si tu habites toute seule en chambre, c'est difficile. Je suis vraiment contente à vivre avec elle.
Une personne qui vient d'un pays étranger vit chez une personne de la société d'accueil. Elle va bénéficier de tout le réseau et de toutes les connaissances de la personne chez qui elle est. Donc ça, évidemment, ça, en termes d'insertion professionnelle, ça joue beaucoup. Oui.
En créant des liens entre réfugiés et citoyens, l'association Singa a ainsi permis à plus de 600 réfugiés de trouver un logement, puis un emploi, une formation, des amis en France, un mouvement citoyen qui ne coûte rien à la France et fait même faire des économies aux structures d'accueil officielles pour réfugiés, souligne David Robert de Singa France.
Ça veut dire que sur les 500 premières personnes accueillies dans le cadre de ce programme, si vous faites le calcul, on a fait économiser entre 3 et 4 millions d'euros à l'État.
Inscrite sur j'accueille.fr, dans de nombreuses villes en France, plus de 1000 familles françaises ont déjà participé à l'association.
En rappelant qu'un peu plus de 225 000 personnes bénéficiaient du statut de réfugié à la fin 2018. Autre débat engagé, celui-là dès ce week-end, et ils ont jusqu'au début de janvier pour faire des propositions, les 150 Français tirés au sort pour la Convention citoyenne sur la transition écologique. Ils ont commencé à débattre et surtout à écouter les experts et militants venus répondre à toutes leurs questions. 5 groupes de travail ont été constitués sur le logement, le transport, la nourriture, la consommation et l'habitat. Parmi ces 150 citoyens dont les avis pèseront lourd, l'un des plus âgés, Robert, a 79 ans, ancien maçon à la RATP. Il se dit pour l'instant satisfait de cette expérience. Il est au micro de Sophie Bécherel.
Pour l'instant, je suis satisfait. Ce qui est bien dans ce truc, c'est qu'on peut parler à tout le monde sans barrière. Hier, je parlais avec un patron. Moi, l'ancien cégétiste. Vous voyez, hein ? Donc, c'est un avantage de parler aux gens sans barrière. Et j'espère que ce qui va sortir de cette convention sera bénéfique pour tout le monde. Pas pour moi, pour la France entière. Moi, j'ai 79 ans. 2030, je serai peut-être mort. Mais mes petits-enfants sont encore là. Donc, il faut penser à eux. Et il y a des années que je pense comme ça.
Vous avez travaillé sur quel thème ?
Là, la nourriture.
On parle de quoi dans ce groupe ?
Ben, on parle de transport. Pourquoi on transporte des aliments du monde entier quand on pourrait le produire chez nous ? Et puis comment on fait de l'agriculture bio? On a demandé des paysans lambda, un paysan qui fait du bio, un expert qui nous explique l'agriculture, et ainsi de suite. Voilà.
À propos d'écologie, ralliez-vous à son panache vert. Europe Écologie Les Verts se lance dans la campagne des municipales à Marseille sans attendre un hypothétique accord à gauche. Les militants ont décidé de constituer une liste autonome qui sera conduite par Sébastien Barle, dont on peut écouter les premières déclarations sur franceinter.fr. L'écologie qui s'est également invitée ce dimanche au Vatican. C'est un synode consacré à l'Amazonie qui a ouvert ce matin le pape François. Une réunion de 3 semaines au cours de laquelle tous les évêques du monde, et en particulier ceux de l'Amérique latine, sont invités à débattre des missions de l'Église dans cette région mise à mal par la déforestation. Cette Amazonie dont le souverain pontife veut faire une référence pour son concept d'écologie intégrale. Xavier Sartre à Rome.
L'écologie intégrale, c'est l'une des principales préoccupations de François depuis le début de son pontificat. Lors de la messe devant les évêques participant au synode, il a ainsi fustigé les atteintes à l'environnement, principalement les incendies. Le feu allumé par des intérêts qui détruisent, comme celui qui a récemment dévasté l'Amazonie, n'est pas celui de l'Évangile. Le feu de Dieu est une chaleur qui attire et rassemble dans l'unité. Il se nourrit de partage, non de profit. Le pape a critiqué ainsi ceux qui veulent défendre des idées personnelles, brûler les diversités pour uniformiser tous et tout. Car ce n'est pas uniquement la préservation de l'écosystème qui intéresse François, c'est aussi celle des peuples qui vivent en Amazonie. Que Dieu nous préserve de l'avidité des nouveaux colonialismes, a-t-il exhorté, exprimant là encore une de ses principales critiques envers la société moderne, celle du colonialisme culturel, de l'imposition d'un certain mode de pensée de vivre allant à l'encontre de celui défendu par l'Église. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
En Tunisie, législative cherche électeurs. Pour ces 3e législatives depuis le départ de Ben Ali, les Tunisiens ne se seront pas déplacés en masse, loin de là, comme si les résultats n'avaient pas d'importance au pays du printemps arabe, où les anciens partis ont, semble-t-il, beaucoup déçus. C'est pourtant à l'Assemblée que tout se décide, Maureen Mercier. Alors que les bureaux de vote sont maintenant fermés, c'est l'abstention qui devrait l'emporter ce soir, si l'on en croit ce que vous avez vu cet après-midi.
Calme, retentissant devant ce bureau de vote d'un quartier populaire de la capitale. Les policiers qui assurent la sécurité du scrutin sont plus nombreux que les électeurs. Les rares qui se sont déplacés constatent, effarés.
Très très peu de monde. On ne va pas dépasser les 20% là.
C'est décevant.
Ça ressemble à un boycott.
Ça ressemble à un boycott. Les Tunisiens ne sont pas blasés, mais...
Tout le monde est en colère, voilà ce qu'on peut dire.
Personne ne vote par conviction aujourd'hui. Les électeurs veulent sanctionner les partis traditionnels.
Je ne pardonnerai jamais à tous ceux qui ont gouverné le pays depuis 2011. Après la révolution, il n'y a pas un seul gouvernement qui a fait son travail. Ils ne nous ont fait que du mal.
Ce jeune homme, 27 ans, préfère sourire plutôt que de pleurer.
C'est dommage.
Il le sait, ce mécontentement favorisera le parti de Nabil Karoui, l'homme d'affaires candidat au deuxième tour de la présidentielle, en prison, soupçonné de blanchiment d'argent. Il favorisera aussi les islamistes et leurs farouches adversaires, le parti d'Abir Moussi qui se revendique de l'héritage de Ben Ali. La plupart des gens qui défilent sous ses yeux voteront d'ailleurs pour ce parti.
J'ai peur. Abir Moussi, ça représente l'ancien régime. C'est dangereux quand même.
Les premières estimations devraient tomber ce soir. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
En bref, à Londres, toujours la confusion du côté de Boris Johnson qui dit vouloir assouplir son plan de Brexit tout en demandant aux Européens un peu plus de flexibilité. Pour Emmanuel Macron, qui l'a eu au téléphone, il faut pouvoir évaluer dès la fin de semaine si un accord est possible, notamment sur le principal point de blocage qu'est l'Irlande. 3 mineurs des Lilas en Seine-Saint-Denis déférés devant le parquet de Bobigny. Mis en examen pour assassinat en bande organisée, ils pourraient être placés en détention. C'est au juge des libertés d'en décider. Les jeunes de 14 et 15 ans sont accusés d'avoir poignardé à mort un lycéen des Lilas avant-hier vendredi à l'entrée d'un stade. Pour le parquet, le geste était prémédité même si la victime n'était pas personnellement visée, ayant elle-même pris part à l'altercation. Ce n'était pas une superstar, mais tous les amateurs de rock connaissaient son nom. Ginger Baker, décédé ce dimanche à 80 ans, était un batteur légendaire, cofondateur du groupe britannique Cream. Il a marqué l'histoire des années 60 autant que Charlie Watts, des Stones et Mitch Mitchell du Jimi Hendrix Experience. Pour les spécialistes, il a fait passer les batteurs de rock de simples chronométreurs à des personnalités musicales à part entière. In a white room with black curtains.
near the station. Black roof country, no gold payment.
Voilà la batterie de Ginger Baker dans Cream White Room. C'était en 68. Sur les routes du dimanche soir, une circulation ralentie sur la 13. Manon Vautier-Cholet.
Oui, avec un accident entre deux voitures à hauteur de Mantes-la-Ville qui s'est produit il y a un peu plus d'un quart d'heure en direction de Paris. L'une des trois voies est donc coupée à la circulation à cet endroit et on compte donc sur la 13 plus de 18 km de ralentissement depuis les lieux de l'accident en direction de la Porte Maillot. Et puis plus au sud, sur la 7 cette fois, deux accidents là aussi qui ralentissent la circulation en direction de la ville de Lyon. Un premier juste après Orange et puis un deuxième après Vienne. Il faut ajouter environ 20 minutes au temps de trajet habituel aux endroits de ces deux accidents.
Manon Vautier-Cholet, OPC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Jean-Michel Golinski.
Demain, la dépression calée dans le golfe de Gênes va engendrer un vent de secteur nord très fort sur la Corse, jusqu'à 100 km/h et beaucoup d'instabilité sous forme d'averses orageuses, notamment sur l'est de l'île où les précipitations seront intenses. Sur le continent, en marge de cette dépression, le Mistral et la Tramontane seront également tempétueux, avantage ils vont maintenir un ciel bien dégagé. Enfin, sur le reste du pays, c'est vraiment un ciel d'automne qui va s'imposer avec de fréquents nuages bas et des brouillards qui vont évoluer très lentement, doublés en matinée de pluie résiduelle du nord-est au nord des Alpes avec de la neige à partir de 1500 mètres sur les Savoies et l'arrivée en cours de matinée par la pointe ouest de nouvelles pluies qui vont rapidement gagner la Normandie et les Pays-de-la-Loire puis toutes les côtes de la Manche en fin de journée. Dans des températures qui ne varient pas beaucoup d'un jour sur l'autre, il est prévu 15 à 21 degrés demain après-midi de la moitié nord au quart sud-ouest et un maximum de 26 sur les côtes varoises.
France Inter 19h17, on passe au sport. Le journal des sports, c'est avec vous, Fabrice Rigobert, bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, ils ont fait beaucoup parler d'eux ces dernières semaines, mais pas forcément dans le sens qu'on attendait. Les championnats du monde d'athlétisme s'achèvent tout à l'heure à Doha, au Qatar.
Des mondiaux qui ne resteront pas dans les mémoires, que cela soit sur le plan sportif pour la France, comme du pur point de vue de l'organisation. Bonsoir Vincent Pellegrini. Vincent Pellegrini, bonsoir.
Bonsoir Fabrice.
À un an des Jeux de Tokyo, les Français repartent avec un bilan modeste et ce n'est pas le relais messieurs du 4x400 mètres qui va changer les choses ce soir, Vincent.
Effectivement, pas a priori pas de chance de médaille pour ce relais 4x400 mètres, deux médailles seulement pour la délégation française ici à Doha, l'argent pour Quentin Bigot au marteau, le bronze pour Pascal Martineau Lagarde dans le 110 mètres haies. On est très loin du bilan de Londres il y a deux ans, cinq médailles dont trois en or. Il y a eu la faillite des leaders, Johan Diniz, Renaud Lavellini, Robert Michon, la blessure de Kevin Mayer et puis la nouvelle génération a beaucoup déçu hormis Djilali Bedrani qui a décroché une belle cinquième place dans le 3000 mètres skip. Clairement, la relève n'est pas prête. De nombreux athlètes tricolores sont restés loin, très loin de leur meilleure performance de la saison. Le bilan est bien sombre. Le directeur technique national, Patrice Gergès, l'admet aisément.
Ah, ça a été une dizaine de jours qui étaient très compliqués à aborder. Nos meilleurs sont pas là. Du coup, ça fait un trou. Et un trou avec une génération qui est pas encore prête à affronter ça. On est à peu près dans la tranche la plus basse. Seulement, tous nos meilleurs sont pas du tout là et sont pas présents. À part Pascal qui est présent et nos deux lanceurs de marteau. Bon, on se retrouve avec des athlètes sur qui on compte. Et puis, en fin de compte, quand eux sont pas là, bah, les autres sont pas encore prêts à rentrer dans le top 8.
Voilà, le top 8, c'est les 8 premiers hein, qui sont considérés donc comme finalistes et l'équipe de France n'en compte que 6. Ce n'est pas très rassurant à 10 mois des Jeux Olympiques de Tokyo.
Au-delà de ces résultats sportifs pour le camp tricolore, Vincent, entre le bilan carbone, les tribunes vides, une question restera. Fallait-il organiser ces mondiaux à Doha, au Qatar ?
Et oui, de nombreux athlètes et entraîneurs pensent effectivement que cela constituait une erreur d'avoir accordé au Qatar l'organisation de ces mondiaux. C'est en 2014, rappelons-le, que Doha a été désigné. Il y a d'ailleurs une enquête de la justice française qui est ouverte pour des soupçons de corruption dans l'attribution de ces championnats. C'est vrai que jamais des mondiaux ne se sont déroulés devant des tribunes aussi clairsemées. Ce stade climatisé, alors techniquement c'est une réussite, hein, il fait 25 degrés, mais écologiquement c'est bien sûr très critiquable. Les épreuves hors stade marchent et marathon se sont déroulées dans des conditions extrêmes. Et puis, on peut dire également qu'il y a eu cette affaire de dopage, hein, cet entraîneur américain Alberto Salazar, qui a été suspendu pendant ces championnats 4 ans par l'Agence américaine antidopage. Ça a contribué à alourdir encore l'atmosphère. Depuis des années, le Qatar veut faire du sport un vecteur de rayonnement international, on le sait. Et de ce point de vue, ces mondiaux ont été vraiment contre-productifs.
Vincent Pellegrini en direct de Doha au Qatar. Et noté que le député français Régis Juanico a cette semaine posé la question du boycott de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
En rugby, la France en quart de finale de la Coupe du Monde, une nouvelle fois dans la douleur.
Oui, c'était encore presque inespéré il y a quelques mois, mais ils y sont parvenus. Les Bleus ont remporté ce midi au Japon leur troisième match dans cette compétition, 23-21 contre les Tonga, assurant ainsi leur place en quart, avant même le dernier match de poule la semaine prochaine face à l'Angleterre. Une victoire une nouvelle fois étriquée, compliquée, avec cette toute petite marge. Jérôme Val.
Le 15 de France aime le tragique de répétition, se faire peur, se faire malmener alors que tout paraissait sous contrôle. Comme contre l'Argentine ou les États-Unis, les Bleus n'ont pas suffisamment maîtrisé leur sujet face aux Tonga. Mais au bout, il y a l'essentiel, une qualification qui semblait encore utopique il y a quelques mois, le trois quarts centre, Sofiane Guitoun.
Il n'y a pas plus loin qu'au début de l'été, personne n'aurait misé qu'on soit en quart de finale. Nous, on y a cru, nous, on croyait en nous. Et voilà, on l'a fait. Dans la douleur, et tant mieux que ce soit dans la douleur. Moi, je vais pas vous dire qu'on est plein de confiance, qu'on se prend pour d'autres.
Les Bleus se paient même le luxe d'enchaîner 4 victoires de suite, si l'on inclut celle contre l'Italie en match de préparation, une première depuis 2015. Alors même si tout n'est pas parfait, le demi de mêlée, Baptiste Serin s'en contente.
On a des moments dans les matchs qui sont un peu compliqués, mais bon, sur les 3 matchs, on arrive à les gérer puisqu'on gagne. Donc voilà, après on va nous dire que c'est pas des matchs aboutis ou quoi que ce soit, mais résultat, on est en quart de finale.
Et il reste un match contre l'Angleterre samedi, pas très important donc, mais pas à négliger, le 3e ligne, Charles Olivon.
C'est un match de Coupe du Monde, c'est un crunch contre les Anglais. On peut pas négliger ce match, mais tout se jouera sur le quart de finale. C'est pas samedi que la suite de la compétition se jouera pour nous.
Quant à l'adversaire des Bleus en quart, ce sera soit le Pays de Galles, soit l'Australie. Kumamoto, Jérôme Val, France Inter.
Et un petit peu plus tard aujourd'hui, les All Blacks, double champion du monde en titre, ont surclassé la modeste Namibie 71-9 en inscrivant 11 essais. Les Néo-Zélandais sont en tête de leur poule devant l'Italie. Dans le top 14 de rugby en France, le Racing 92 s'est imposé à Pau 31-3. Toulon a disposé de La Rochelle 23-3. Pau 6e et Toulon 7e du classement avec 13 points. Le Racing 92 10e avec 11 points. La Rochelle 12e avec 9 points.
En foot, un derby qui ne manque jamais de piment.
C'est sans doute l'un des derbys les plus attendus du foot français. Saint-Étienne et Lyon se retrouvent ce soir en match de clôture de la 9e journée de la Ligue 1. Bonsoir Bruno Salomon.
Bonsoir Fabrice.
Alors les Verts sont lanterne rouge, Lyon 13e, classement que personne n'envie vraiment. Cela n'enlève rien toutefois à l'intérêt de cette rencontre.
Oui, car il se passe toujours quelque chose dans le derby, il y a toujours des petites histoires et celui qui se profile, hein, ce 119e Saint-Étienne-Lyon ne manque pas de sel. Claude Puel, ça c'est la petite histoire, le nouvel entraîneur des Verts depuis vendredi a été l'entraîneur de Lyon entre 2008 et 2011. Alors sur le papier, il n'y a rien de vraiment extraordinaire, hein, Fabrice, puisque c'est le 5e technicien de l'histoire à entraîner les deux clubs. Non, là où la situation est un petit peu plus piquante, c'est que Puel est parti fâché de Lyon avec Jean-Michel Aulas, avec les supporters. D'ailleurs, tout s'est terminé devant les prud'hommes. Alors, Puel n'a pas que des amis, hein, dans le Rhône, il faut le souligner. 8 ans pourtant se sont passés et les tensions sont toujours, eh bien, vives. En tout cas, ce soir, hein, c'est un derby, comme vous l'avez souligné, qui va opposer deux clubs qui sont en plein doute. Les Verts ont changé d'entraîneur, ils sont derniers de Ligue 1. Ils n'ont pas gagné un match ici à domicile. Et de l'autre, Lyon, eh bien, tous en championnat. 6 matchs sans victoire, 13e de Ligue 1. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'un derby Saint-Étienne-Lyon n'avait pas opposé des équipes aussi mal classées. En tout cas, une chose est sûre, si les deux équipes veulent redonner un petit peu le sourire à leurs supporters et redonner un petit peu, voilà, de vert ou de rouge, selon votre camp, eh bien, ça serait bien de gagner cette rencontre ici du côté de Saint-Étienne. La dernière fois que Saint-Étienne l'a gagné, ce derby, c'était il y a, eh bien, 3 ans. C'est un bout du monde, cher ami.
Un coup d'envoi de ce Saint-Étienne-Lyon à 21h 1h. Merci Bruno Salomon en direct du Chaudron. Dans les autres matchs aujourd'hui, Lille et Nîmes ont fait match nul 2 partout. Lille 5e avec 15 points, Nîmes 14e avec 9 points. Reims s'est imposé à Rennes 1-0. Reims est 6e de la Ligue 1 avec 14 points. Rennes est 10e avec 12 points. En Angleterre, Chelsea s'est imposé à Southampton 4-1. Défaite à domicile de Manchester City 2-0 devant Wolverhampton, seulement 13e de Première Ligue. Et puis succès d'Arsenal 1-0 devant Bournemouth. En Italie, c'est un choc au sommet qui va débuter à 20h45 ce soir entre l'Inter Milan et la Juventus Turin, les deux premiers du classement qui sont aussi les meilleurs ennemis.
Tout à fait autre chose maintenant dans ce journal des sports, Fabrice, avec une académie Tony Parker qui vient d'ouvrir à Lyon.
Elle a été inaugurée cette semaine. C'est un campus situé dans le quartier de Gerland, au sein duquel les sportifs préparent leur avenir grâce au partenariat établi entre l'ASVEL, le club de Tony Parker, une agence de recrutement et des sponsors proches de l'ancien basketteur. Reportage Mathilde Imberti.
Ne parlez pas d'étudiants ici, mais d'académiciens. La TPA, Tony Parker Academy, en accueille 60 depuis la rentrée. Essentiellement pour l'instant des basketteur du centre de formation de l'ASVEL, le club de Villeurbanne détenu par le champion Mélissa Espoir Féminine.
Ça permet d'avoir les deux, c'est-à-dire de pouvoir aller à la fac et aussi bien s'entraîner. Ils nous aident, nous les sportifs, à avoir une orientation professionnelle parce que bah, bien sûr, une carrière, ça, c'est pas éternel.
Les jeunes sont suivis en effet par une agence de recrutement, agence adéquate pour établir un parcours professionnel, une idée chère à Tony Parker.
Dans cette pièce-là, il y a 95% ils seront pas basketteurs pro ou basketteuses pro ou e-sport professionnel. C'est juste la réalité. Il faut préparer l'avenir. Et moi, j'ai toujours été très, très conscient de ça pendant ma carrière. Et donc, c'est ce que je veux faire maintenant à travers l'académie, que quoi qu'il arrive, ils sortiront avec quelque chose et qu'ils seront prêts à attaquer la vie.
Une académie très sélective sur le niveau. Dans la section e-sport, c'est LDLC qui recrute, l'équipementier haute technologie qui est aussi le sponsor du club l'ASVEL. À Lyon, Tony Parker fédère toutes les énergies du sport et des affaires pour rendre, dit-il, tout ce que le basket français lui a donné. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
L'Estonien Ottanak a remporté le rallye auto de Grande-Bretagne aujourd'hui devant le Belge Thierry Neuville. Le champion du monde français Sébastien Ogier est 3e. Ogier qui pointe désormais à 28 points de Tanak en tête du classement des pilotes à 2 rallyes de la fin de la saison.
Allez, une première au prochain JO de Tokyo. Une équipe israélienne participera aux compétitions de baseball.
Oui, Israël a très récemment validé son ticket pour le Japon et cela n'avait rien d'évident au départ. Israël n'est pas le Japon ni les États-Unis, nation phare de cette discipline. Mais depuis quelques années, les Israéliens se sont illustrés avec un parcours honorable au Mondial 2017 jusqu'à cette qualification. Explication Frédéric Mettezo.
It's official next year in Tokyo. Israel's going to the Olympic Games.
L'enthousiasme des commentateurs américains au moment de la qualification. Les Israéliens seront de l'aventure olympique et c'est un peu comme si les États-Unis décrochaient leur ticket. Car l'essentiel de l'équipe israélienne est composé de joueurs américains ayant reçu la nationalité. Le processus a commencé en 2012 et l'an passé, 10 d'un coup ont reçu leur passeport bleu et blanc frappé du chandelier à 7 branches. Tant pis s'ils ne parlent pas tous hébreu parfaitement. La fédération de baseball et le gouvernement israélien ont assoupli les critères. Avoir un père juif ou une épouse juive étant jugé suffisant. Les recrues ont visité tous les lieux incontournables de leur nouveau pays. Le mur des lamentations, la forteresse de Masada, le mémorial de la Shoah à Yad Vashem. Mais les instances se sont aussi assurées qu'aucun joueur n'était en âge d'être enrôlé à l'armée. Car ici, on ne plaisante pas avec le service militaire. Et pas question d'être à la caserne pendant les Jeux olympiques. Au total, 6 équipes participeront au tournoi. Les Israéliens ont donc une chance sur deux de décrocher une médaille. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et après le Japon, pays hôte automatiquement qualifié, Israël est le 2e qualifié.
Pour terminer ce journal des sports, une course contre le cancer.
Plus de 35 000 personnes ont participé aujourd'hui à Paris à la course Odyssea qui se déroulait dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Vous avez certainement vu des affiches dans votre ville ou des campagnes à la télévision avec un ruban rose. Faire du sport permet aussi d'accompagner les malades vers la guérison. Le sport est une arme pour lutter contre le cancer. Fanny Lechevestrier.
C'est comme trois coupes de champagne.
Du bonheur total.
Ce qui rend joyeuse Yannick, c'est donc un cours de gymnastique, un cours de sport adapté, dispensé par l'association Camille Sport et Cancer, qui sonne comme une parenthèse enchantée dans un quotidien souvent éprouvant.
Quand par exemple la radiothérapie, c'était tellement douloureux, au moment où je faisais la gymnastique, bizarrement, j'oubliais la douleur. On oublie la maladie.
Et le sport devient alors un moteur et même un moyen de retrouver une vie sociale, témoigne Dominique.
Parce qu'avec les traitements, souvent vous restez au fond de votre canapé, à regarder
regarder les séries à la télé. Et là, c'est formidable. On retrouve le goût de vie.
Avec pour objectif de se réconcilier avec un corps maltraité par la maladie, un corps plus comme avant pour Elisabeth.
Il y a les cicatrices.
Le corps devient un ami et pas juste un pauvre corps abîmé et maltraité, quoi.
Bien sûr, on reprend confiance quand on se sent mieux physiquement, oui, sûr.
Et c'est par le sport que Maryse a réussi à lutter contre la fatigue et les douleurs liées au traitement.
Je me souviens du bras gauche que je ne levais pas plus que ça. Maintenant, il va complètement en arrière. Ça m'assouplit et ça me muscle. Ça redonne du punch.
Le sport, donc, pour aider à guérir. Plusieurs études scientifiques avancent même d'ailleurs qu'une pratique régulière diminue de 50% le risque de récidive d'un cancer du sein.
Et si vous voulez en savoir plus sur les actions de la CAMI, un site internet sportetcancer.com, tout attaché en minuscules.
C'était le journal des sports de Fabrice Rigobert.